Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la maison de Radio France et en direct s'il vous plaît pour un masque du lendemain, comme on dit la pilule du lendemain, consacré au palmarès qui a été dévoilé hier soir, vous le savez, du Festival de Cannes avec les Night Clubbers de la Croisette. J'ai nommé Pierre Murat, Pierrot de Télérama, Eric Neuhoff du Figaro, Xavier Le Herpeur, l'obsessionnel Xavier Le Herpeur de 7e Obsession, et avec le respectable Michel Simon de Positif. Avant de commenter, de critiquer ou d'approuver le palmarès encore tout chaud que vous avez forcément suivi, en tout cas je l'espère, sur France Inter hier soir avec nos amis Eva Bétan et Augustin Trapenard, parlons de cette 71e édition du festival que, je le rappelle, dirige Thierry Frémaux et que préside Pierre Lescure. Une édition, ça ne vous a pas échappé, moins ensoleillée et plus cinéphilique, moins glamour et plus politique que d'habitude. Peu de stars, pour ne pas dire très peu, presque pas de films américains, plus guère de paillettes au grand dam de Xavier, plus du tout de selfies sur le tapis rouge.
Ça a été douloureux.
Je sais. Des absents très visibles, notamment Terrence Malick, Xavier Dolan, Jacques Audiard, des présents plutôt discrets, et puis une étrange mélancolie renforcée par le fait qu'aucun film cette année n'a suscité cette folle rumeur qui s'empare d'ordinaire du festival et qui va bien au-delà, je pense, pour ces dernières années, à ce qu'avait provoqué, j'allais dire presque Courbi et Torbi, les 120 battements en 2017, Tony Erdmann, qu'adore Pierre Murat, en 2016.
Grand film.
Ou encore Le Fils de Saul en 2015. Bref, un festival normal pour laquelle la presse américaine, qui semble désormais lui préférer Venise et Toronto, n'a pas été jusqu'à hier très, très tendre. Vous en pensez quoi, vous, les critiques du Masque et la Plume, de cette édition 2018, 71e édition du Festival de Cannes?
Ben, je pense que un palmarès peut sauver un festival qui a été moyen ou au contraire le faire plonger. Et je trouve que ce palmarès est très décevant par rapport, surtout, on en parlera plus tard, par rapport à ce qu'il écarte. Parce que, par exemple, tu as raison, Jérôme, mais le Lee Jang-dong, par exemple, Burning, c'est le film qui a eu, dans toute l'histoire de Screen International, le maximum. Il est arrivé à une moyenne de 3,8 sur 4. C'est-à-dire que tous les critiques internationaux, aussi bien de Bangkok que de Los Angeles que de Paris, etc., ont dit que c'est un film exceptionnel. Mais unanimement, ils n'ont jamais connu ça dans l'histoire de ce magazine anglais qui, tous les ans, fait une charte. Ben, ce film est absent. Et c'était un événement, un véritable événement.
Alors, je précise à nos auditeurs qu'on va commenter le palmarès et qu'ensuite, évidemment, vous allez exprimer les uns et les autres vos regrets ou vos remords, d'ailleurs, c'est possible. Mais sur l'atmosphère générale de ce festival... qui a été ressenti par certains comme étant un peu tristounet, disons, par
rapport. C'était terne, Xavier. Je crois qu'on peut le dire, hein, sans prendre beaucoup de risques. C'était quand même une édition. Et déjà, sur le plan du cinéma, assez terne. C'est vrai que tu l'as dit, aucun grand film ne s'est dégagé, un film qui nous passionne, pour lequel on a envie de se défendre. Moi, j'ai rarement aussi peu attendu un palmarès. On l'attendait presque négativement, en espérant que certains films ne montraient pas
oui,
trop.
C'est sûr,
voilà.
C'était
quand même déjà un signe.
On a été déçus en bien.
Les sélections parallèles n'étaient pas d'une richesse non plus extraordinaire. On a confirmé 2-3 auteurs, mais on n'a pas eu découverte particulière. Il n'y avait pas grand monde. Il faut quand même dire aussi une chose, c'est que le bilan, il va se chiffrer aussi autour de la fréquentation. Il n'y avait pas grand monde dans les salles. Il y avait, surtout quand certains films étaient mal placés, il n'y avait personne au marché du film. Les Américains ne sont pas venus. J'ai même quelqu'un qui m'a dit au marché du film qu'en fait, ils étaient venus avant le Festival de Cannes, lundi, mardi, mercredi, et qu'ils sont partis pour profiter du grand week-end de l'Ascension.
Il y a plus d'Américains accrédités à Cannes que de Français. Donc les Américains, il y a 3500 Américains qui viennent à Cannes. Faut pas
mais
non
ma
plus.
Question
non,
portait
mais...
sur l'atmosphère. Sur la teneur un peu particulière.
Sur l'atmosphère. Mais oui, mais moi, je tiens un peu crépusculaire quand même, Michel.
Je suis pas d'accord. Bon, d'abord, j'ai vu beaucoup de très bons films. Le problème du festival, comme de Berlin, comme de Venise, le gros problème, c'est qu'on n'arrive plus à voir la distinction entre la compétition qui devrait montrer les meilleurs films du festival et les sections parallèles. De plus en plus, la frontière est complètement floue. Il y a des films magnifiques dans des sections parallèles et des films médiocre en compétition. C'est surtout ça le vrai problème. C'est que les grands festivals ne font pas les vrais choix.
Il y a eu de grands films sur cette édition,
Eric. Comment tu l'as vécu, toi?
Il y a eu quelques films en noir et blanc, mais l'impression générale, c'est la grisaille, j'ai trouvé. Il n'y a eu aucune polémique, même le Lars von Trier n'a pas déclenché.
Oui, je vous interrogerai dessus, évidemment, après, mais...
On a vu deux très bons films au début, le russe et le polonais, et ensuite il y a eu une longue plage étale où il se passait pas grand chose. Et je sais pas si c'est dû au bouleversement dans les projections de presse, mais plus personne ne s'écharpait. Il y avait une bien-pensance généralisée, quelque chose de contraint dans cette sélection, comme si on était un peu à un meeting à la Mutualité au lieu d'être dans une salle de cinéma.
Ça c'est notre faute.
En plus, ce manque de peau, le palmarès est tombé le jour du mariage.
Et voilà, c'est la preuve de l'existence de Dieu.
Pierrot.
Bah moi je suis un peu de meilleure humeur que vous parce que moi
Pierre, je t'ai connu à la fin de certains festivals très en colère.
Oui.
Et là tu as l'air presque bonhomme.
Ben je suis bonhomme. Alors, je suis bonhomme parce que je trouve qu'il y a eu quand même 6-7 films très intéressants. On va en parler. Le malheur c'est qu'ils sont pas au palmarès. Donc c'est ça qui me fait.
On n'a pas eu de découverte. Citez-moi un auteur qu'on n'attendait pas qui nous a stupéfait. Il y a même des auteurs qu'on adore qui n'ont pas livré leur meilleur film.
Il y en a.
Soyons honnêtes.
Mais il y en a.
C'était pas désagréable. Non, on n'a pas été agressé.
Moi, je connais pas de festival de Cannes où il n'y ait que des chefs-d'œuvre, où on passe son temps à s'écharper.
Mais bien sûr,
la question qui se pose, c'est le film qui tout d'un coup suscite, en dehors même du festival.
Oui, Malik ou Mélancolia, des choses comme ça.
Burning.
Non. On n'a pas parlé beaucoup de Burning en dehors du festival de Cannes.
Il a eu le prix de la presse internationale. Il a eu le sommet des cotations. Ne dis pas que c'est pas un événement. Pour moi, c'est un film magistral.
Oui, mais en deuxième position, c'était le Godard dans ton journal.
Je n'ai pas dit que ça n'était pas un événement. S'il vous plaît. Simplement, c'est pas un film qui a galvanisé au-delà du petit cercle fermé des critiques cannois.
Oui, ben c'est déjà ça. Non, mais
je suis d'accord avec vous.
Alors, on laisse terminer. Voilà. Pierre.
Non, mais je trouve simplement que, bien sûr, il y avait pas de stars, il y avait pas de paillettes. On est d'accord. Mais ça, on s'en fout un tout petit peu. Enfin, je veux dire que nous, ça.
Oui, ça c'est l'argument de la presse américaine.
Oui, mais oui,
ils voudraient des repas somptueux et des stars en permanence. Non, on s'en fout.
Mais ils ont eu Star Wars.
Moi, je m'intéresse au cinéma.
Moi, je sortais de quelques projections, très heureux d'avoir vu les films dont on va parler tout à l'heure. Maintenant, évidemment qu'il y avait 3-4 films dont on se demandait ce qu'ils fichaient là, comme d'habitude, et on peut en parler. Enfin, la sélection française était moyenne, à part le film de Christophe Honoré.
Ah, tu es en pleine forme, parce que moyenne, c'est gentil.
On va entrer dans le détail. Avant, question technique, mais qui est importante, parce qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez pâti d'être privé de la fameuse projo de 8h30? De ne plus voir, d'ailleurs, ni assassiner les films avant tout le monde, ça.
C'est Eric qui est en quotidien, qui était
pour un quotidien, ça ne change rien. Que tu vois le film à 10h du soir un jour ou le lendemain à 8h, le papier sortira le lendemain.
Donc ça n'a pas été.
C'est techniquement le seul problème. Querelle, alors. C'est comme on le voyait décalé d'une demi-heure par rapport aux gens en smoking. Quand on sortait, il n'y avait plus une place dans les restaurants, mais c'est tout.
Oui, c'est effectivement un problème.
Il y a eu quand même quelques conséquences pour les gens qui travaillaient en matinale, en quotidienne, sur les radios et sur télé. Quand même des enjeux pour chaque chaîne, qu'elle soit radiophonique ou télévisuelle. Et là, c'était compliqué, effectivement, parce qu'il y avait une absence cruciale du film dont on avait vu à monter les marches et dont le journaliste responsable ne pouvait pas parler. On a vu quand même très peu de gens de BFM, très peu de gens de CNews. Voilà, c'est clair, ils ont donné quelques dérogations aux journalistes de radio, mais encore, une chose, on ne pouvait dégainer que de la critique, pas d'interview, pas de fond, pas d'analyse. Donc c'est vrai que pour cette catégorie de la profession, ça a été beaucoup plus compliqué.
Alors, venons-en au palmarès donc qui a été décliné hier soir dans la salle lumière du Palais des Festivals. Je rappelle que le jury de la compétition officielle était présidé par Cate Blanchett et qu'il comptait les actrices Léa Seydoux et Kristen Stewart, le comédien Chang Chen, la réalisatrice Ava DuVernay, les cinéastes Denis Villeneuve, Robert Guédiguian, Andrei Zvaginsev et la chanteuse burundaise Kaja Nin. Un jury qui avait, si mon compte est bon, 21 films à juger, dont 4 Français. On le sait, ils sont tous repartis bredouille. Stéphane Brisé, Eva Husson, Christophe Honoré et Yann Gonzalez. 2 seuls Américains, Spike Lee, qui est reparti avec le Grand Prix. Et un jusqu'alors méconnu, inconnu, qui est David Robert Mitchell.
Découvert à la semaine de la critique, quand même.
Critique, hein. Oui, mais pour le grand public.
Oui, pour les films meilleurs. Mais c'est vrai, voilà, c'était une
pari. Donc, on commence. Je voudrais absolument savoir ce que vous pensez, évidemment, de la Palme d'Or, qui a été décernée à Une affaire de famille, le film de Kore-eda. Kore-eda, d'ailleurs, qui avait fait un polar dont on avait parlé il y a 2 mois, qui n'était pas très convaincant. Bref, une famille asociale qui vit de larcins, comme Xavier, et s'entasse dans un espace réduit, recueille une enfant battue. Film touchant, film que beaucoup ont appelé ce matin la palme du cœur, avec un grand C. Est-ce pour autant une palme d'or? C'est la question que je vous pose collectivement.
Moi, j'y réponds affirmativement. Xavier. Avec grand plaisir. Ça n'est peut-être pas le Kore-eda que je préfère, mais ça couronne un immense cinéaste. Effectivement, Sir Murdoch nous avait un petit peu déçus, sorti récemment, mais il a le droit aussi de se planter, hein, heureusement. Oui. C'est pas une machine à faire que des bons films. Il continue, en tout cas, avec Une affaire de famille. Tu l'as très bien dit, ce père et ce petit garçon qui volent à l'étalage et
avec
qui
vivent. Grand-mère.
Surtout, voilà, de la pension que touche cette grand-mère. Il y a 2 prostituées qui vivent aussi, une encore en activité, une qui s'est retirée. Et puis, ce sont les thèmes de Kore-eda, c'est-à-dire en fait, cette famille n'est peut-être pas liée par les liens du sang, mais par des liens qui sont faits de tendresse, d'humanité, et qui sont souvent beaucoup plus drôles. Il avait déjà un peu esquissé dans Tel Fils, je trouve que c'est un film, moi, magnifique, parce qu'il est toujours juste, il est toujours simple, mais il n'est jamais simpliste. Il y a une manière de regarder, de croquer cette famille, de croquer le Japon d'aujourd'hui, et en même temps d'être dans l'universalité des iniquités.
C'est sûr qu'il n'y a pas l'enfant. Ce qu'il y a dans certains autres films.
Non, mais voilà, on est bien d'accord, mais cette palme-là pourrait peut-être enfin convaincre le grand public, le large public, de découvrir s'il ne l'a déjà fait, parce qu'il a eu quelques beaux succès quand même, hein, déjà. Ce qu'est Kore-eda, c'est un cinéma, encore une fois, limpide, avec une ligne claire, mais la ligne claire, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile à faire. On a un contre-exemple dans le palmarès, on en parlera tout à l'heure. Moi, c'est un film qui me bouleverse, c'est un film qui me touche, et je trouve que c'est une belle palme par rapport à l'ensemble de la
sélection. Malheureusement, je parle à nos auditeurs, on ne sait absolument pas quand il va sortir.
Il me semble que c'est fin octobre.
Fin octobre.
Non, mais ça pourrait être avancé, je crois.
Mais c'est un film en plus. Pierre. Moi, j'aime bien cette palme. C'était pas ma... J'aurais donné la palme à quelqu'un, à un autre film.
Je vous demanderai après.
Mais voilà. Mais je trouve que c'est bien. C'est peut-être le meilleur film qu'il ait fait à mes yeux depuis Nobody Knows, qui était aussi un film sur l'enfance, sur une famille.
Tel père, tel fils, c'était bien.
C'était bien, mais quand même, moi, Nobody Knows, je garde un souvenir parce que c'était beaucoup plus cruel, c'était dur.
C'est mieux
c'était,
que vrai Nobody Knows.
C'était des enfants lâchés à eux-mêmes dans l'abandon, qui retournaient à la sauvagerie. Là,
une histoire vraie en plus.
Une histoire vraie.
Et là, c'est beaucoup plus effectivement des faits divers ou des histoires.
Et là, c'est plus insolent d'une certaine façon, puisque c'est en effet dire, eh bien, tu l'as dit, Xavier, c'est vous choisissez votre famille, et à partir du moment où on choisit et on ne subit pas sa famille, eh ben peut-être que les choses se passent nettement mieux. Donc il y a une espèce de vraie insolence là-dedans.
C'est un message personnel ou j'ai...
Non, c'est pas un message personnel, mais enfin, en tout cas, je suis assez d'accord malgré
mais
tout.
Mais Pierre a raison, parce que la famille au Japon, c'est sacro-saint. Là, la manière dont il y touche, c'est éminemment subversif.
C'est très subversif.
Très, très subversif. Nous, on le voit pratiquement d'une manière un peu gentillette. Au Japon, ça va faire grincer des dents, parce qu'on ne touche pas à la famille. Hein.
De toute façon, c'était un des rares prix mérités de ce palmarès.
Bonne palme d'or.
Oui, une jolie palme d'or. Gentil film, un peu trop long, comme tous les films d'ailleurs. Et puis, c'est pas étonnant qu'un film sur des voleurs ait raflé la palme sous le nez de ses concurrents. Personne ne s'y attendait vraiment. Mais on a poussé un ouf de soulagement, parce qu'on redoutait un tas d'autres choses.
Oui.
Non, c'est un film complètement amoral. C'est ça qui est sympathique chez lui.
Qu'est-ce que vous redoutiez le plus? Dites-moi la vérité.
Un prix dont on va parler dans quelques minutes.
Ça va être long. Non, mais c'est un joli film où il y a une très belle scène d'amour, là où les parents, un après-midi en douce, visiblement, on voit qu'ils n'ont pas couché ensemble depuis longtemps, font ça. Et c'est très, très joli. Il y a une autre jolie scène.
Et les gamins débarquent, oui, c'est ça.
Ouais. les gamins sont en train de choisir les bonbons qu'ils vont voler. Et l'épicier, qui est attendri par eux, leur offre des bonbons. Et c'est une scène magique, ça. C'est tellement beau que... Mais le film est un petit peu trop long et je préférais Tel père, tel fils, personnellement.
Michel.
Oui, c'est un peu une version un peu rose de Oliver Twist. C'est tout de même c'est ce père et cet enfant qui vont voler dans les grands magasins, etc. Non, moi, je suis surtout heureux qu'il ait eu la panne parce que ça nous a évité, sans doute, bien pire.
Oui, on est tous... Allons-y, quoi.
Je ne dirais pas que c'est une panne du niveau de Kurosawa ou d'Imamura, qui sont les autres japonais qui ont eu le prix, qui étaient beaucoup plus grands cinéastes. C'est un très bon cinéaste, Koreeda, vraiment un très bon. Je ne dis pas ça pour diminuer ce que je pense de lui. J'ai pris du plaisir à certains de ses films, moins à d'autres, mais ça ne me paraît pas...
Il y a un côté artisanal dans son cinéma.
Oui, non, mais c'est un joli film, je le veux. Ah, mais dire que c'est le plus beau film du festival, je me refuse catégoriquement.
Ah bah non.
En tout cas, c'est la Palme d'Or.
Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit.
Le Grand Prix.
Le jury, mais enfin...
Le Grand Prix. Est allé à Black Klansman de Spike Lee, qui est un vétéran du Festival de Cannes. Je me souviens encore de The Right Thing, il y a, je sais plus quoi, c'était 20 ans, au moins.
J'étais pas né.
Qui porte à l'écran l'histoire vraie de ce policier américain qui est joué dans le film par John David Washington, le fils de Denzel Washington, qui a infiltré à la fin des années 70 le Ku Klux Klan, mouvement, vous le savez, raciste, antisémite et militant pour la suprématie blanche. Un film qui, évidemment, se devait un peu pour des raisons presque politiques et extra-cinématographiques de figurer au palmarès. Comment vous l'avez jugé, ce film, Eric?
Bah, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et une
drôle
bonne moi j'ai rigolé tout le temps. Malgré quelques lourdeurs qui sont inhérentes à Spike Lee, qui n'est quand même pas l'Ariel du cinéma. Mais cette histoire à bracadabrande de ce noir qui s'infiltre dans le clan, moi j'ai trouvé les dialogues très très percutants, très marrants. Effectivement, la fin avec les images d'actualité de Charlottesville viennent tout gâcher. Et il y a un passage très très lourd où on a en alternance une réunion du Ku Klux Klan et une espèce de conférence d'Harry Belafonte terriblement bien pensante, qui est quand même un peu pesante. Mais pour un Spike Lee, c'est quand même pas si mal.
Bah, c'est ça.
Il attendait son prix depuis longtemps, hein, Michel?
Non, moi je trouve que pour un Spike Lee, c'est pas si mal. Si on pense au Spike Lee des 20 dernières années, oui. Mais quand l'homme qui a fait Do the Right Thing ou Jungle Fever, qui étaient des films merveilleux, ça fait partie du rétropédalage de ce jury, qui n'a pas arrêté de vouloir ressusciter des gens qui ont fait des films magnifiques il y a 30 ou 40 ans, et qu'on nous présente comme des... on en parlera tout à l'heure de l'autre, mais...
Je sais pas de qui tu veux parler, je ne sais pas du tout.
Mais un peu le Spike Lee, pour moi, c'est l'interface du Godard. C'est-à-dire, le Godard, j'ai rien compris, et là, j'ai tout compris. C'est-à-dire, le Spike Lee, au bout de 10 minutes, on a compris, et je ne suis pas du tout pour le Ku Klux Klan, Dieu merci.
Mais c'est pas ça, vrai.
Le Ku Klux Klan, c'est mal.
On a des photos
d'accord.
De tout incompromettant, Michel.
C'est pas suffisant. J'adore Dr. Follamour, la grosse farce me gêne absolument pas, mais malheureusement, il n'y a pas d'inspiration, c'est un film assez banal, c'est de l'agite propre, pas très propre.
Pierrot?
C'est drôle, c'est vrai. Non, mais c'est efficace. Là, il faut quand même dire les choses. C'est efficace. C'est-à-dire que les gens vont aller voir ça, ils vont se marrer, ils vont en effet trembler à la fin. Et puis, donc c'est très efficace. Mais Spike Lee a toujours fait un cinéma de bourrin. C'est quand même très lourd.
N'insulte pas les chevaux.
Grand prix de bourrin. C'est un film de bourrin un peu moins mauvais que ce qu'il a fait depuis 20 ans. Voilà. Mais c'était logique qu'il soit là. C'est un film anti-Donald Trump, anti-raciste, etc.
Ah, y a tout.
C'était couru, c'était...
Et puis il fallait bien un film américain en palmarès.
Voilà, pour les faire revenir sans les autres années.
Et Adam Driver se fait pardonner son rôle dans le Don Quichotte.
Xavier?
Je suis désolé, mais vous n'avez rien compris au film.
Non. Ah bon?
Non. Parce que j'ai un copain qui a posé la première question à Spike Lee. Vous avez fait une comédie. Spike Lee s'est levé, il lui dit, vous n'avez rien compris à mon film, ça n'est pas une comédie. Il a tourné les talons, il est parti. Spike Lee croit avoir
absolument
fait un grand film politique sérieux. Donc ça prouve
le ratage
du film. Non, mais je te mens pas.
Il en parle comme d'une tragédie.
Il est parti. Le mot comédie est un mot proscrit de son vocabulaire. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le seul intérêt de ce film-là. Après, je suis totalement du côté de Michel.
C'est le mec qui voulait pas être interviewé trouvé par des blancs.
Pendant deux heures, on rigole, on s'amuse.
Faut pas l'écouter.
C'est quand même un long pilote de série télé. Et je pense qu'il vendra d'ailleurs à Netflix la version série télé de ce film-là.
Ouais, très
rapidement, puisqu'il vient d'y vendre de la Darling, n'en fait qu'à sa tête. Donc, il y a des personnages, il y a une situation. Il rate complètement le thriller, la poursuite de la fin.
Ça, c'est très mauvais.
À mon dirait du Jean-Pierre Mocky sous l'exemple.
Et encore, c'est Mocky, c'est mieux.
Je suis d'accord avec Eric, les images de la fin de Charlottesville qui ont déjà été lourdement amenées dans des dialogues du genre non mais jamais personne n'élira aux États-Unis un ancien du Ku Klux Klan, pouf. Non mais attends, c'est un niveau quand même assez bas. Et bien et l'opportunisme des images frontales puisqu'on voit la voiture foncer à l'aller et au retour sur les manifestants.
Mais on a l'air de s'étonner, c'est pas Lou Beach, tu comprends.
Allez, c'est pas une comédie.
Il y a un mot, c'est quand même opportuniste.
On en reparlera au masque puisqu'il sortira le 22 août. Et c'est donc le film de Spike Lee qui a obtenu le Grand Prix. Alors, une Palme d'Or spéciale, je crois que ça ne s'était jamais vu au Festival de Cannes, pour le livre d'images, film expérimental, comme il dit, de Jean-Luc Godard, 87 ans, dont d'ailleurs une photo de Pierrot le Fou a servi d'affiche, il faut quand même le rappeler au Festival. Donc, Palme d'Or spéciale, c'est tout ou c'est rien, je n'arrive pas très bien à comprendre quel sens ça a.
Mais tu sais, il y a longtemps, on avait donné comme ça, ils étaient très embarrassés.
Il y a parfois des Césars d'honneur.
Non, mais il y avait le prix du 20e anniversaire, Orson Welles qui l'avait reçu pour Falstaff. Et le 25e, c'était Luchino Visconti pour Mort à Venise, parce qu'il s'était très emmerdé de devoir choisir à l'époque entre Mort à Venise et Le Messager. Donc on avait poussé Visconti.
Mais Palme d'Or spéciale.
Ils n'avaient pas ce problème cette année.
C'est la première fois qu'on galvaude cette chose soudaine qui devrait être précieuse pour le Festival de Cannes, c'est le terme Palme d'Or. Ça ouvre la porte à d'autres palmes d'or spéciales dans les années à venir. Pourquoi ils n'ont pas eu le courage, puisque beaucoup pensaient, certains de mes confrères pensent que c'est un film génial, qui vole très au-dessus de tous les autres films, il fallait avoir le courage de lui donner la palme d'or.
Oui.
C'est un manque de courage total, défausser, parce qu'ils savent évidemment que ça aurait été un scandale qu'il ait la palme d'or.
Mais ça aurait été
dans
plus
ces
amusant.
Cas-là qu'ils soient en accord avec leurs pensées.
Tu penses que Kate Blanchett a été subjuguée par les films de Godard?
Moi, je pense que le nombre de gens qui m'ont dit « je n'ai strictement rien compris, mais c'est sublime », excusez-moi, c'est un essai cinématographique. Quand Chris Marker fait « Sans soleil » ou « Le fond de l'air rouge ».
Il faut préciser qu'il n'y a pas de plan tourné, c'est du montage.
C'est du montage. Mais quand, moi, ça, je suis pour le cinéma essai, mais les grands essayistes, que ce soit Montaigne ou Nietzsche, quand ils écrivent, on comprend ce qu'ils disent.
Quand Chris Marker fait Le fond de l'air rouge, ou Sans soleil,
on comprend ce qu'il dit. On ne comprend pas ce film. Et d'ailleurs, tout le monde le reconnaît.
Qui l'a compris ici, là? Éric, Xavier, Pierre?
Même pas Godard, je pense.
Mais je sais pas si la question de la compréhension.
Mais on s'en fout de comprendre, enfin, je veux dire.
On s'en fout jamais de comprendre quand il s'agit d'un essai.
L'art moderne, Marion Bade,
on peut adorer Marion Bade.
Pour le film de Godard, moi, je trouve qu'il y a deux parties, si j'ose dire, différentes. Il y a tout ce qui est visuel, c'est-à-dire, il a l'art de trouver
des correspondances. C'est important au cinéma,
hein. Oui, mais il a l'art de trouver des correspondances entre les films qu'il choisit, de créer des liens. Ça existe.
Ça n'apporte rien par rapport aux histoires du cinéma.
Mais si, ça apporte.
Il l'a déjà fait très bien.
Mais si, ça apporte, ça apporte.
Je
trouve qu'il y a des trouvailles visuelles. On se dit, ah bah tiens, j'y avais pas pensé d'opposer Johnny Guitar à ça. Bon, il y a des trucs magnifiques. Le problème avec Godard, mais ça a toujours été son problème à mon avis, c'est la politique. Parce que là, il veut faire aussi un film politique. Et là, ça devient très emmerdant, son film sur l'Arabie. Alors l'Arabie, pays de beaux paysages et de visages, tu parles.
L'Arabie heureuse.
Oui, non. Et là, il y a des répliques où on dit « je suis toujours pour ceux qui lancent des bombes ». Alors, c'est pas lui qui le dit, puisqu'il y a toujours il tire ses propos de livres, d'entretiens. Mais quand même, entendre
c'est
ça.
C'est qu'il tenait dans les années 70.
Godard, même dans les années 60, quand il a eu sa période Mao, sa période, Kino Pravda, etc., n'a jamais rien compris à la politique. Il s'est toujours planté. C'était un poète de l'image. Un poète de l'image.
Je suis d'accord. Mais aussi, à propos de rétro-pédalage, quand Godard faisait Pierrot le Fou, Le Mépris, Bande à part, Masculin, féminin, il n'était jamais à Cannes. Pas sélectionné, rien.
Et maintenant, il fait deux derniers films, Palme d'Or, Grand Prix du Jury, etc. C'est absolument, c'est triste, c'est d'une grande tristesse.
Éric Le Godard.
Mais il faudrait être médecin, là. Il va pas bien, Monsieur Godard, aujourd'hui. On va rentrer à la clinique, là, parce que vraiment, c'est un film d'un gâtisme complet. Enfin, j'espère, au moins. Ou à moins que ce soit du je m'en foutisme, parce qu'il y a, au début, une sorte de main qui fait un doigt d'honneur, et un type qui
très
pense...
Très important, la main,
ouais,
pour lui.
Hein. Ouais, très, mais le doigt, là. Donc, je pense
qu'il
lui reste...
avec ses mains,
il lui reste une bribe d'humour de sa jeunesse et quelqu'un
qui était très drôle dans sa
très drôle, vigoureux, génial. Il est drôle dans les interviews quand il veut, mais quand il dit la marche, c'est ce qui tient les pages, c'est complètement débile et tout le monde s'extasie. Et là, c'est que des trucs comme ça, avec sa voix d'outre-tombe, là, à la Malraux.
C'est les Américains qui s'extasient, d'ailleurs, parce que je crois savoir à la conférence de presse que les Français étaient comme ci, comme ça, et toutes les critiques américaines étaient comme
dire
si c'était
que
un dieu.
C'est Hannah Arendt, c'est un peu énorme.
On pourrait faire du Michel Simon qui dit, c'est un film défendu par la presse internationale, il a eu une excellente moyenne, mais si tu le dis régulièrement, pour essayer de récupérer
mais
des
il l'a
films.
Eu dans ce film, hélas.
Voilà. Moi, je suis exactement comme Pierre. Je vais pas prendre trop de temps de parole pour répéter les mêmes choses. Je trouve que visuellement, les trouvailles, les montages, les distorsions d'image créent quelque chose qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, quand on aime le cinéma, on aime aussi ce travail-là. Après, politiquement,
il est...
Michel! Pour ta statue, tu l'avais en or ou en erreur?
En or spécial.
Cela dit, je suis pour une palme d'or spéciale pour Michel Simon aussi.
Mais quand on aime le cinéma, tu dis, donc c'est un argument d'autorité. Quand on aime le cinéma, on ne peut qu'aimer
le
cinéma.
Allez, un argument personnel qui fait que je ne rejette pas. Mais évidemment, quand on aime le cinéma, il faut rejeter Godard aussi.
C'est le livre d'images de Jean-Luc Godard dont la date de sortie n'est pas encore
arrêtée. Je sais, c'est embarrassant.
Oui, absolument.
Les salles de cinéma.
Voilà. Alors, le prix du jury est allé, grâce à vous, je crois, à Capharnaüm de la Libanaise Nadine Labaki, film de 2h30 sur notamment deux gamins défavorisés de 12 et 2 ans des quartiers les plus pauvres de Beyrouth. Film évidemment très moralisateur, il y a une leçon qui est donnée, très emphatique, et évidemment sur une juste cause. Alors Michel.
Oui, j'ai trouvé ça assez répétitif, assez larmoyant, avec une musique insupportable. Et il y a des moments, mais c'est toujours la même chose. Les néo-réalistes italiens ont fait ça 10 fois mieux. Les enfants dans la tourmente de la guerre, etc. Je trouvais le film assez lassant.
Est-ce que c'est ce film
et j'ai craint le pire,
pensiez,
effectivement.
Oui, vous pensiez les uns les autres.
Oui, on s'est dit, mon Dieu, la palme, la cause des femmes, l'année des femmes, ça va être la palme. Enfin, vraiment, c'était une insulte à Jane Campion de succéder à la leçon de piano. De faire succéder à la son piano ce film très secondaire.
Xavier ?
Ah non, c'est très mauvais, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. J'admire la prudence de Michel. C'est quand même très, très, très appuyé, très lourdingue. Et alors moi, pose une vraie question, on en reparlera quand le film sortira. C'est-à-dire qu'elle dénonce l'exploitation des enfants, mais qu'est-ce qu'elle fait à l'écran quand elle attache un petit bébé de 8 mois à une ficelle et qu'elle met sa caméra le plus loin possible. Le petit bébé, il est quand même laissé un tout petit peu à son sort et le film fonctionne toujours de cette manière-là. Elle a une manière très douteuse au bout d'un moment d'articuler le montage autour d'un plan bien sordide. Donc le petit blague de 8 mois qui lèche la poussière par terre bien sale. Puis juste après, il a un joli petit sourire à l'écran genre Benetton United of Colors. C'est-à-dire que ça pose toujours un petit problème. C'est que, oh mon Dieu, c'est sale, mais en même temps, c'est beau. C'est quand même très, très embarrassant.
Qu'on a entendu, pardon, je t'interromps pour dire que le gamin, qu'est-ce que c'est un bon acteur, elle a réussi à faire jouer les bébés. C'est fou comme argument, quand même.
C'est abominable. Et le pire,
elle est même montée hier soir sur scène.
Avec le gamin,
avec un.
Qui s'était endormi en conférence de presse. Ça avait été la plus jolie image du Festival de Cannes, il n'en avait rien à faire. Il dormait pendant qu'elle était en train de nous vendre sa salade.
Mais il était attaché, je crois.
Mais sans doute. Et il faut quand même dire une chose, et je pense que ça, c'est ce qui statue vraiment l'échec du film. Elle filme donc Nadine Labaki cette histoire, et dans le film, elle joue l'avocate qui va porter secours au gamin. C'est-à-dire qu'elle a double bonne cause et double bonne conscience à l'intérieur de cela. Ça nous a évité Yomedine au palmarès, mais malheureusement, qui était le film égyptien, qui était pétri aussi des bonnes intentions et des pires maladresses, mais malheureusement, on n'a pas pu empêcher les filles à faire.
Eric.
Ah bah son premier film s'appelait Caramel, mais là c'est un film qui colle aux yeux, c'est dégoulinant.
Ah, tu m'as fait déjà celle-là. Caramel qui était
assez
bien,
beau.
Hein,
non. Je l'avais démonté. Il y en a fait un autre dont j'ai oublié le titre qui était calamiteux, mais là
les vieux.
Ah oui, c'est ça. Exact.
Bah, on va à la Palme d'Or.
On rate la Palme d'Or, mais heureusement, parce que les violons, les flashbacks, le procès. Déjà, l'idée est idiote. Un gamin qui fait un procès à ses parents et elle qui joue l'avocate. Non, mais c'est vraiment honteux. Puis, je sais plus qui disait le pittoresque, c'est la misère de loin. Et c'est exactement le sentiment qu'on a en voyant ce film, là.
Pierrot.
Et puis c'est totalement hystérique, c'est-à-dire que de la première à la dernière image, ça ne fait plus pas. Il y a Hitchcock quand même qui avait donné quelques bonnes idées, quelques bons trucs au cinéaste, de dire que pour créer la tension, il faut des moments de pause quand même pour que ça reparte, des alternances. Là, c'est sur le même rythme tout le temps pendant 2 heures. Et alors la façon dont elle filme le gamin, enfin je sais pas, quand on pense, tu parlais du cinéma italien, mais quand Rossellini filmait, je sais pas,
Allemagne
le gamin
des
Allemagne à des zéros.
On pense à Nobodino dont tu parlais de Coreeda sur l'enfance. Abandonnée elle-même.
La de grand, Chaplin.
Oui, enfin, voilà.
On a comparé le film à Chaplin en plus. Oui,
bon, allez, c'est donc Nadine Labaki, ovationnée hier soir au Festival de Cannes, qui a reçu le prix du jury pour Capharnaüm et donc qui n'avait pas compté avec Le Masque et la Plume. Ce soir, il est 20h33. Vous écoutez évidemment Le Masque sur Inter en direct. Nous commentons ce palmarès du 71e Festival de Cannes. On va aller un peu plus vite pour les suivants. Un prix d'interprétation féminine, là je compte sur toi Pierrot, à la Kazakh Samal Yeslia Mova,
oui,
c'est ça, dans Aïka de Sergueï
Dvortsevoï,
où elle est une jeune Kirghize qui travaille clandestinement à Moscou et qui accouche d'un fils qu'elle abandonne et qu'elle va vouloir ensuite récupérer, retrouver, un rôle on ne peut plus sacrificiel d'un film très christique parfois. Pierre.
Bah, c'est le même problème que la Baki, sauf que c'est mieux. C'est-à-dire que c'est fait sur l'hystérie aussi. C'est-à-dire que il lui arrive des tas de babioles, et plus elle s'enfonce, plus il lui en tombe dessus. Et alors, c'est vrai
qu'on... Certains critiques ont jugé que c'était trop.
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu résumé comme ça. Mais c'est du Dardenne. C'est-à-dire que le mec, le réalisateur, c'est son deuxième film. Il avait eu Tulpan qui avait bien marché à Cannes. Il a vu Rosetta, il doit avoir vu Rosetta
Rosetta Kirghize.
Oui, c'est Rosetta Kirghize. Alors, c'est plutôt bien fait, contrairement au film dont on vient de parler, parce qu'il a un sens du cinéma, il a quand même un sens du cadrage, mais c'est vrai qu'au bout d'une heure, et elle, eh ben elle fait correctement le boulot, comme elle est victime, bah tout le monde trouve que c'est une grande interprète, mais enfin, à part
je sais pas pleurer. Si vous avez remarqué, mais hier soir, en recevant son prix, on avait l'impression qu'elle était encore victime, d'ailleurs.
Mais oui, oui.
Alors, voilà, c'était un prix.
Elle a eu peur. Elle n'a pas été obligée de voir. Un joli film, non, c'est quand même un petit peu fatigué.
C'est un peu fatigant.
Elle a tout, la fille. Là. Elle perd son bébé, elle l'oublie, elle plume des poulets dans un sous-sol, elle veut acheter une machine à coudre, les mafieux la font chanter. Je me suis dit, zut, si elle se casse un ongle, ça va être la fin du monde. Et puis, là, puis cette caméra à la main, c'est quand même très pénible. En plus, le gars a l'air d'avoir la maladie de Parkinson, donc ça bouge dans tous les sens, ça n'arrête pas une seconde. C'est un petit peu une épreuve. Et puis, on l'a déjà vu, ce genre de film, mais ce serait un film qui se passe dans la Creuse.
Beaucoup de gens vont regretter en nous écoutant de ne pas avoir été dans ce festival de
Moi, je trouve sévère. Je trouve qu'il y a une qualité qu'il faut porter au crédit de ce film. C'est encore pire que le Labaki. Moi, c'est vraiment du cinéma. Je n'ai aucune envie de voir. Qui ne m'intéresse pas. S'il pouvait lui greffer la caméra dans les yeux, dans le nez ou ailleurs, il le ferait avec un plaisir. Il exploite le personnage de manière ignoble. Je suis désolé. Tu parles de Dardenne, mais les Dardennes ont un point de vue, une distance sur le personnage qu'il n'y a pas là. Elle y va au problème. Elle est con, en plus. Une fois qu'elle a plumé ses poulets pendant 2 heures,
il y a
celui qui doit lui donner de l'argent, lui dit, attends, je vais au camion, je reviens. Elle attend cette conne. Mais moi, j'avais compris qu'elle ne reviendrait pas, de toute façon. Et le scénario, mec,
elle est candide et
naïve. Non, elle est con. Elle a droit. T'as des immigrés cons, malheureusement, ça nous arrive à tous. Hein.
Ne va pas dans le pays kazakh.
Vraiment, le film, c'est le film pour Cannes, quoi, qui exploite tout, qui surexploite tout, qui surligne tout. Et je suis désolé, c'est vraiment un très mauvais film.
Il n'a pas resté grand-chose de ce palmarès à la fin du masque, Michel.
Non, moi je suis d'accord avec Pierre, c'est pas du tout un très mauvais film. C'est un film effectivement qui est plombé par cette sorte de caméra qui n'arrête pas de tourner, qui était original quand les Dardenne l'ont inauguré, mais qui est devenu un cliché cinématographique. Mais le film n'est pas mauvais, mais qu'il ait été préféré au film de Serebrennikov L'été, qui était une révélation majeure, là c'est très grave.
Ah, oui. Donc c'est l'héroïne de Aïka de Dvortsevoï. Je ne sais pas quand il sort non plus. Le prix d'interprétation masculine est allé à l'Italien
Marcello Fonte dans Dogman de Matteo Garrone, le réalisateur, je vous le rappelle, de Gomorra, où il joue un toiletteur pour chiens, ce qu'a fait à une époque d'ailleurs, je sais Xavier, dans sa vie, qu'une sorte de colosse, molosse, va entraîner dans les mauvais coups. Et ce Marcello Fonte, c'est d'abord, il faut le dire, un physique. Je sais pas comment on pourrait le qualifier sans être une sorte de Buster.
C'est un mélange de Charles Denner, de Louis Rego, en gros.
C'est entre Buster Keaton et Louis Rego. Et il a un parcours d'ailleurs tout à fait singulier puisque squatter, homme à tout faire, figurant, je crois qu'il a quasiment tout fait. Est-ce que ce prix d'interprétation masculine est légitime?
Oui, voilà, un prix légitime.
Michel.
On avait été très déçus par les récents films de Matteo Garrone. Il avait fait Gomorra, qui était un film fort. Ensuite, il a fait deux films vraiment médiocres. Et là, il retrouve le territoire de la mafia, du film politique, social italien, avec un acteur que je trouve assez formidable. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de grands acteurs masculins dans la compétition, pas tellement de concurrence. Et je pense que c'est un prix tout à fait valable.
Oui, Pierre.
Ah oui.
Je déteste pas le film, mais moi je trouve que, enfin, il en fait beaucoup, quoi, quand même. Hein, c'est pas dans le.
Non, justement, il a l'air de sortir d'un dessin de santé.
Non, ce qui en faisait beaucoup, c'était Roberto Benigni, remettant.
Oui. Ah oui, ben celui-là, oui, le ça, prix. Mais voilà.
Et il y a dedans la séquence la plus émouvante de tout le festival. Il arrive à ranimer un chihuahua congelé.
Oui, j'y crois pas trop, là. De toute façon, il met trois gouttes d'eau.
Il y en a un très, très gros, énorme.
Non, mais celui-là, il lui coupe les griffes.
Oui, mais enfin.
Mais il y a des scènes très belles.
Et puis, il y a un film à côté napolitain.
Il y a un
prix d'interprétation.
Ah, si.
Xavier?
Oui, moi, comme je suis un peu comme Pierre, prix d'interprétation, je suis pas convaincu. Je pense qu'il y avait des compositions nettement plus intéressantes dans d'autres films. Bon, le film est pas désagréable. C'est effectivement un petit retour de Matteo Garrone. Est-ce qu'il fallait absolument lui donner un prix pour le remercier d'être venu?
On va en reparler au masque puisque ce film Dogman de Matteo Garrone, pour lequel le comédien a été primé, va sortir sur vos écrans le 11 juillet. Très rapidement, on termine avec un prix qui a été partagé en deux, prix du scénario, à la fois pour... Ah non, j'ai oublié la mise en scène, évidemment, pour Pawlikowski, pour Cold War, prix très important, la mise en scène, le réalisateur d'un film qu'on avait beaucoup défendu au masque, qui est Ida, qui était déjà en noir et blanc. Celui-là est également en noir et blanc. C'est l'amour impossible dans les années 50, au temps de la guerre froide, de la Cold War, entre un musicien et une chanteuse, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème. Michel?
Oui, alors c'est le troisième prix que je défendrai. Et en plus, il est bien intitulé « Mise en scène ». C'est un film d'une incroyable perfection formelle, fait par ce cinéaste Pawlikowski, qui a fait plusieurs films en Angleterre, puis Ida. Et c'est un noir et blanc magique.
Formellement, c'est assez impressionnant.
Formellement, hein. Et c'est une belle histoire, effectivement, d'amour à travers les années qui passent. L'homme qui part à Paris. Bon, je suis moins convaincu par l'épisode parisien, mais le film est très valable.
Xavier?
Un peu froid pour moi. C'est un très bel objet, mais dont je ressors sans aucune émotion.
Est-ce que tu avais éprouvé avec Ida aussi, ou pas?
Mais on n'allait pas sur le même territoire du romanesque, de l'amour impossible. Ça s'ouvre quand même sur la création de la Starac polonaise en 46 après la guerre, ce qui est assez savoureux. Le film est magnifique. Ça, on peut pas lui reprocher. Tu peux arrêter n'importe quel plan. Ils sont tous plus beaux. Mais ça ne fait pas pour moi quelque chose d'aussi bouleversant que je pouvais l'espérer. Et j'ai trouvé que des films servaient beaucoup mieux à travers la mise en scène, leurs propos, que celui-ci.
Oh, moi, j'ai trouvé ça magnifique, oui. Eric. C'est un film où on voit passer comme rarement le temps. Il y a quelque chose de proustien dans ces images en noir et blanc, dans cette histoire d'amour romantique. Et la fille aurait même mérité le prix d'interprétation.
On en a parlé beaucoup, hein, la comédienne.
Mais enfin, elle ne plumait pas des poulets. Ouais, elle n'a pas souffert.
Non, il fallait qu'elle perde son enfant. Elle
irradie quelque chose. Il y a un moment où il la filme en train de danser dans une boîte sur Rock Around the Clock. Et en plus, elle est soupçonnée d'avoir tué son père, ce qui crée un problème dans la relation. Non, c'est un beau film. Elle dit, il m'a confondu avec ma mère, un couteau a fait la différence.
Pierre. Ah, moi je suis comme Eric, je trouve ça magnifique. Ah, oui. Et en plus, contrairement à Xavier, moi je suis très ému par l'histoire d'amour. Et je trouve que c'est magnifique ce qui se passe entre eux, que c'est tout le temps différent. C'est en effet ni avec toi ni sans toi, bien sûr, mais fait de façon, mais vraiment très belle. La fin est splendide, que je ne raconterai pas. Mais il y a un plan par exemple où elle le retrouve après l'avoir fait sortir de tôle, de camp, qui est magnifique. Je trouve
ah, mais c'est des plans magnifiques.
Non, mais je veux dire que moi je suis très ému par cette histoire d'amour.
Alors, ce prix de la mise en scène attribuée à Cold War de Pawlikowski sortira sur nos écrans le 31 octobre. Et je le disais donc, un prix du scénario partagé entre un film que j'ai tellement aimé qui est le film de Jafar Panahi, Trois visages, qui va sortir bientôt le 6 juin. Et l'italienne Alice Rohrwacher, pour Heureux comme Lazzaro. Après du scénario coupé en deux, je ne comprends pas très bien le sens que ça a. Peu importe, dites-moi vite simplement ce que vous en pensez. Eric ?
Lazzaro, moi, c'est tout ce que je déteste au cinéma. La fausse poésie, l'innocence, les idiots du village, ça, c'est mielleux, ça m'a vraiment cassé les pieds. C'est ce côté Ninetto Davoli du héros. Oui, et puis, pour la fille, la poésie, ça consiste à prendre Sergi Lopez pour jouer un cambrioleur italien. Alors, un Espagnol qui parle italien, c'est peut-être de la poésie, mais j'ai trouvé ça très banal et très très plat.
Et Xavier ?
Deux prix de consolation pour deux films qui méritaient, moi je trouve, mieux, vraiment, parce que le scénario n'est pas le point fort.
Toi, l'Horreur Vachère, tu as aimé ?
Oui, moi j'aime l'Horreur Vachère, j'aime beaucoup le Panahi aussi, ce sont des films en même temps qui se déploient grâce à la mise en scène, grâce à l'interprétation. Les scénarios sur le papier ne sont pas, à mon avis, les choses les plus... Le Spike Lee aurait été très bien en scénario, par exemple, parce que ça n'est que ça.
Sur le scénario du Panahi, il était impossible.
Mais voilà, et l'Horreur Vachère non plus, hein, ce qu'elle travaille comme matière cinématographique, les corps, la lumière, la ville, la campagne, sont pas de l'ordre du scénario, mais moi c'est un film qui m'a plutôt séduit. Il est trop long, il est pas parfait, mais il est intéressant.
Pierre ?
Bah, l'histoire... Non, moi j'aime pas du tout, je suis comme Eric, j'aime pas du tout le Lazzaro. Parce que je... Non, mais en plus, on pense tout le temps à des cinéastes qu'on aime, c'est-à-dire qu'on pense à Ettore Scola, Frossard et Méchant, on pense à même Vittorio de Sica, Miracle à Milan, on pense à Pasolini, et on se dit que c'était quand même tellement mieux que.
Et Panahi, voilà, va faire un truc.
Et Panahi,
le
j'aime
problème,
beaucoup,
c'est
mais.
Elle y pense.
Oui,
ça.
Elle y pense. Et ça se voit. Et Panahi, c'est très, 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 très bien. Scénario, point d'interrogation, parce que c'est pas le...
C'est pas en ça que c'est absolument.
Voilà, moi, il est pas absolu.
Et puis, on a le sentiment qu'il est presque, au fur et à mesure, improvisé, le pauvre, dans sa voiture. Il essaie de construire ce qu'il peut du film, Michel.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le film italien, c'est le problème de beaucoup de jeunes cinéastes italiens qui n'arrivent pas à la hauteur de leurs aînés, qui sont écrasés par un passé prestigieux. C'est un côté un peu Olmi, un côté un peu, effectivement, Pasolini, Miracle à Milan de Sica. Par contre, le Panahi, moi, je trouve qu'il méritait beaucoup plus. Oui. C'est un lot de consolation. Et effectivement, le scénario n'est pas ce qui frappe le plus dans le film. Bah, c'est un film, au contraire, qui est libéré du scénario.
Mais au moins, il est au palmarès par rapport à ceux qui n'y sont pas.
Voilà. Et je rappelle,
c'est du cinéma. C'est un dialogue avec Kiarostami, qui n'est jamais mentionné, évidemment, mais il y a la voiture, il y a le suicide, il y a le film dans le film. Il y a une sorte d'hommage du disciple au maître, en même temps, un dialogue avec lui. Ça rend le film tout à fait passionnant.
Et puis très, très, très émouvant. Et je rappelle que Jafar Panahi, comme d'ailleurs Serebrennikov, font partie de ces cinéastes qui ont été empêchés, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas été autorisés à venir au Festival de Cannes pour présenter leur film. Bon, bilan de palmarès, il est 20h45, franchement, c'est pas... C'est
la
pas...
caméra d'or est bien.
Alors, on peut la citer, Girl. Je ne l'ai pas vu, on peut la citer,
Girl. C'est Girl de Lucas Donce.
Ouais, et pourtant, moi, c'est aller voir un film où c'est un jeune adolescent de 16 ans qui veut devenir une femme et être dans ses étoiles.
C'est pas ton genre, ça.
Eh bien, j'ai adoré le film. J'ai trouvé que c'était, pour un premier film en plus, d'une subtilité, d'une force, d'une compréhension, et très très bien filmé aussi. Et un truc étonnant.
Donc alors, je le disais, rien pour les Français, ça vous paraît légitime? Même pas pour le hangar de Stéphane Brisé?
Non, moi, Stéphane Brisé aurait dû avoir un prix, mais le problème, c'est que c'était encore avec Vincent Lindon et qu'il a eu il y a 2 ans pour son film précédent.
Moi, j'aime bien le Christophe Honoré. Hein. Moi, je défends Christophe Honoré que je trouve bien. Et surtout, Pierre Deladonchamp dans le film de Christophe Honoré, que je trouve absolument magnifique. Donc oui, je regrette un peu que Deladonchamp
n'ait pas
pris. D'ailleurs,
je précise que dimanche prochain, dans Le Masque et la Plume, on parlera de beaucoup de films sortis et qui étaient à Cannes, dont précisément Le Hangar de Stéphane Brisé, Le Plaire Aimer et Courir Vite de Christophe Honoré, mais également Le Don Quichotte de Terry Gilliam, ou ce qu'il en reste, Le Asghar Farhadi, Star Wars évidemment, et Gueule d'Ange, qui était en Un Certain Regard, je crois, de David Leitch. Alors donc, je le disais, évidemment, rien dans ce palmarès pour le Burning de Lee Chang-dong, rien pour Le Poirier Sauvage de Nouribil Jelan, rien pour le Yazanke, Les Éternels, rien...
La femme est extraordinaire.
Rien pour l'été de Kirill Serebrennikov.
Au moins le prix d'interprétation.
Quel est le film que vous auriez voulu sauver de ce palmarès, enfin plutôt voir figurer dans ce palmarès?
Les quatre.
Allez, Eric.
L'été de Serebrennikov, là, un Jules Jim... dans les milieux musicaux de Leningrad à la fin de l'ère Brejnev. D'ailleurs, les deux gars en question ont vraiment existé. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas.
Oui, mais
et c'est Victor là aussi en noir et blanc, idole, avec une
icône même aujourd'hui. C'est l'icône même aujourd'hui.
Oui, pareil.
On le découvre avec ce film. Franchement, vous n'étiez pas des spécialistes du rock russe.
Non, mais même moi qui ne suis pas spécialiste du rock russe, Victor Tsoï et un de ses tubes, tout le monde l'avait entendu.
Tu connaissais le groupe Garine et les Hyperboloïdes, moi non.
Non, je connaissais le groupe Kino.
Ah,
parce que, en fait, le film se termine quand ils deviennent célèbres avec le groupe
russe,
Kino.
Tu es un prince russe.
Mais,
c'est un très beau film par l'auteur.
Serebrennikov était dans le tableau des critiques du film français, un de ceux qui étaient les mieux accueillis par la presse.
On lui prédisait la Palme d'Or, mais évidemment. Il n'a rien eu du tout, ce qui est aberrant. C'est un film superbe.
Alors, le plus gros regret de Xavier ?
Burning, Lee Chang-dong. C'est exactement ce que j'ai envie de voir dans un festival. C'est magnifique. Là, vraiment, la mise en scène, c'est un peu le contraire de Cold War, que j'aime bien, au demeurant. C'est-à-dire que la mise en scène révèle, la mise en scène scrute, la mise en scène n'impose pas, elle ne claquemure pas. Elle est constamment là, au contraire, pour apporter de l'ambiguïté, du mystère. C'est l'histoire d'un gamin qui se rêve écrivain, qui vit de petits boulots. Il va rencontrer une jeune femme avec laquelle il va furtivement faire l'amour avant qu'elle ne parte en Afrique. Afrique dont elle reviendra avec un très beau garçon, Ben, qui a tous les talents et qui a toutes les richesses possibles.
Gatsby, magnifique.
Voilà, absolument un Gatsby. Et un triangle amoureux de fait de rivalité va se créer au moment où, effectivement, il va y avoir un bascule dans la narration. C'est un film qui observe, c'est un film qui écoute, magnifique. C'est un film qui scrute, c'est un film qui change de tonalité. C'est un film, l'interprète principal, le gamin, il est génial. Ça, c'était un prix d'interprétation masculine totalement mérité pour que le film figure au palmarès. On en reparlera, mais c'est un grand film qui se réinvente sans cesse et qui nous éblouit jusqu'à la dernière image.
Donc, Lee Chang-dong, Serebrennikov, Michel.
Oui, alors j'ai signé à tout même que Burning a eu le prix de la critique internationale, dont le palmarès est en général peut-être supérieur aux Palmes d'Or. Mais ça, c'est un autre discussion.
En étais-tu cette année, alors, Michel?
Oui, j'en étais.
Ton grand regret, Michel.
Absolument.
Bravo, mais c'était pour t'adresser un compliment. Tu vois,
voilà, et je pense que c'est un film immense. Le film coréen, et je pense que le film de Nuri Bilge-Ceylan est également un film immense.
Somptueux.
Le Poirier
Très
sauvage.
Très long film, 3h30.
Moins long que la Palme d'Or.
Je précise.
Moins long que la panne qu'il a eue.
Et on avait adoré Wintersleep.
Et voilà, et c'est moins long que Wintersleep. Je ne sais pas pourquoi maintenant on commence.
C'est pareil, c'est aussi beau.
C'est aussi beau. C'est tchékovien, chaque personnage est complexe, il y a aucun manichéisme, c'est l'histoire d'un fils qui veut devenir écrivain par rapport à son père qui est un instituteur qui gaspille tout l'argent de la famille, c'est un joueur invétéré. Il y a des personnages formidables, il y a des confrontations à chaque fois aussi saisissantes que dans Wintersleep, entre par exemple l'écrivain local que vient visiter l'aspirant romancier, une conversation qui dure un quart d'heure qui est absolument extraordinaire, avec sa mère, avec son père,
la rencontre avec sa jeune
et des paysages filmés de façon sublime. C'est effectivement,
c'est très politique, hein, beaucoup plus que Wintersleep.
C'est un film très politique, et voilà, le moi je trouve que c'est un film immense.
Ça serait Le Poirier Sauvage, donc aussi. Mais évidemment, il y a Jerzonke aussi, Les Éternels, qui est un film magnifique, avec donc son actrice fétiche, qui est une fresque romanesque, là aussi, extrêmement romanesque, extrêmement réussie. Mais c'est vrai que ce film, où je suis comme Michel et comme Xavier, c'est plutôt Burning et Le Poirier Sauvage, dont c'est un scandale qu'il ne soit pas au palmarès.
Là, on vient
quand
même de citer quatre grands films qui sont totalement absents du
palmarès. Mais voilà, le festival n'était pas si mal que ça.
Il a eu la Palme d'Or pour son précédent.
Ouais, mais il
c'est
le mérite.
Ça aussi.
Ah oui, mais c'est le plus grand cinéaste actuel.
Fois,
c'est pour ça que Lee Chang-dong me paraît la grande victime.
Oui, c'est la grande victime.
Parce que lui méritait enfin la récompense suprême, parce que c'est un des plus grands cinéastes vivants et que ce jury a été absolument aveugle.
Donc, guettez quand ils sortiront Burning, Le Poirier Sauvage, Les Éternels et L'été. Oui, Pierre, tu voulais ajouter un petit mot?
Non, mais je veux dire, on ne comprend pas parce
comme l'émission
parce
va se terminer bientôt.
Thriller, en plus. Voilà.
Quelques questions très rapides. Que valait le très annoncé, attendu retour de Lars von Trier à Cannes, 7 ans après, je vous le rappelle, en avoir été exclu pour des raisons politiques. Alors, film ultra sadique de 2h35, c'est ce que j'ai lu, je ne l'ai pas vu, ça valait quelque chose ce Lars von Trier?
Je trouve que c'est un peu un pétard mouillé, on nous annonçait,
pétard mouillé.
Ah oui, quand on a vu le film en projection de presse, on nous disait il y a 100 personnes hier qui sont sorties,
oui, qui sont
évanouies,
malaise, oui,
il a fait bien pire dans la violence.
C'est quand même pas très subtil, c'est pas très fin, c'est monté à la truelle, le scénario tient pas la route, c'est très systématique. Moi qui suis plutôt fan du travail de Lars von Trier, très déçu.
Donc, pétard mouillé.
Ah, oui et non. Et avec un Matt Dillon qui, si le film avait été en compétition, qui aurait pu avoir lui aussi le prix d'interprétation.
Alors, la presse a fait également très grand cas, hors compétition, Et ça m'a surpris du grand bain de l'acteur Gilles Lellouche. Est-ce que c'était mérité, ça, Eric?
Ah oui, parce que c'était une grosse surprise, parce qu'on est allé voir un film de Gilles Lellouche. Qu'on découvre Salvadori, un très bon film comique comme j'ai
puis Gilles Lellouche à Cannes, c'était pas évident.
Oui,
quoi.
Et ben tout le monde a été assez bluffé, et c'est un film très
donc
très drôle.
Donc c'était mérité.
Ah oui, c'est un full Monty à la française, et on voit toute la brochette des acteurs de 40-50 ans français se montrer en maillot de bain avec leur bourrelet, leur ventre mou. Et il y a vraiment quelque chose de très émouvant. Et on voit ce que c'est que la France, la province, les échecs. Il y a presque un côté Simenon dans les personnages. Et c'est un film très, très marrant qui va être un gros succès, à mon avis.
Alors, Gilles Lellouche à Cannes, c'était pas évident. Mmh. Pas évident non plus. On en a beaucoup parlé. Le pape François, version Wim Wenders.
Michel, on n'en est plus à l'époque de écrasons l'infâme. Je veux dire, on ne va pas reprendre un discours anticlérical un peu ridicule aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de dirigeants dans le monde infâmes qui font le malheur de notre planète. On n'a pas à s'en prendre à ce pape. Mais c'est vrai que Wim Wenders, qui est un homme très doux et très gentil, très écuménique, il n'a pas du tout fait un film à controverse. Mais quelle controverse maintenant, en plus qu'il a condamné les pédophiles, les évêques pédophiles chiliens, il n'y a vraiment plus rien à lui reprocher.
Bon, si le film peut-être.
En guise de conseil, vous allez maintenant me sortir chacun une pépite. Alors, ça peut être tout à fait dans d'autres sections, évidemment, que la sélection officielle. Et si possible, indiquer en même temps la sortie probable de ces films. Ça peut être à la quinzaine, à la semaine de la critique, à un certain regard. Je commence avec Michel.
Alors moi j'ai un film qui, je sais que déjà Xavier a pesté contre, c'est un film qui s'appelle Border Gräns en suédois, d'un Iranien qui vit en Suède depuis l'âge de 18 ans. C'est son deuxième film, c'est un film fantastique. C'est une femme qui ressemble un peu à une femme de Néandertal, très animale, qui, avec un odorat extrêmement développé, qui contrôle les passagers, la drogue, etc., dans les aéroports, et qui va aller vers l'animalité. Elle va rencontrer un homme qui est lui aussi très proche. Vous savez, c'est comme les dessins de Charles Lebrun au XVIIe siècle, où un homme est à moitié chouette, à moitié homme, il est à moitié sanglier, à moitié homme. C'est un film assez terrifiant, là, surtout la première partie qui est tout en suggestion, et très étonnante. Et il a eu le grand prix de la catégorie Un certain regard.
Tu ne sais pas quand il sortira, bien sûr.
Ne sais pas, mais il va sortir, c'est sûr.
La pépite trouvée par Xavier.
Mais comme on a parlé de Girl, un premier film, je vais aller à la quinzaine des réalisateurs et recommander, il sortira le 3 octobre, le nouveau film de Philippe Faucon, Amine, qui vraiment, moi, m'a bouleversé, m'a touché. Philippe Faucon continue, un peu comme Kore-eda, à tracer le même sillon, mais à se réinventer, à renouveler. C'est le portrait d'un homme, Amine, un immigré, entre la France et son pays natal. C'est le portrait d'une femme qu'il aime ici, d'une femme qu'il a laissée là-bas et qu'il aime aussi. C'est un peu plus choral, il y a d'autres formes d'immigration. Le film est, comme toujours chez Faucon, d'une grande délicatesse et d'une grande force d'écriture et de mise en scène. Ça m'a vraiment bouleversé.
La pépite trouvée par Eric Neuhoff.
Un autre premier film à la semaine de la critique, la première réalisation de l'acteur Paul Dano, Wildlife, qui est tiré du récit de Richard Ford sur sa mère, avec Carey Mulligan qui fait une composition extraordinaire. Et rarement on a vu un film aussi juste sur l'adolescence, sur ce que c'est que d'avoir une mère qui embrasse un autre homme, qui trompe le père du gamin. Et tout ça filmé dans une lumière à la Hopper, et c'est une très très belle révélation.
Meilleur que les deux films américains en compétition.
Oui, c'est vrai.
Et le titre c'est
Wildlife, pour l'instant ça sort au mois d'août.
Au mois d'août, la pépite trouvée par Pierre Murat.
À un certain regard, un film chinois qui s'appelle Un grand voyage vers la nuit. C'est le deuxième film d'un cinéaste de 27 ans qui s'appelle Bigan. Il avait sorti un film qui s'appelait Kylie Blues il y a quelques mois. Et c'est l'histoire d'un type qui revient dans sa ville à la recherche d'une femme aimée autrefois, peut-être rêvée. Figurez-vous que un des auteurs favoris de ce jeune cinéaste chinois, c'est Modiano, Patrick Modiano. Incroyable, mais vrai. Et on retrouve absolument cette quête du souvenir, ces souvenirs qui s'imposent, des bribes de souvenirs fugaces. Et alors, au bout d'une heure de film, il nous fait le culot de faire un plan séquence d'une heure, de 60 minutes, un plan séquence. Et ça pourrait passer pour de la préciosité. Et je trouve que non, ça ça plonge le film dans une espèce de magie et de fantastique. Je sais pas quand le film sortira, mais il sortira, parce qu'il a été bien accueilli à Cannes, et ça s'appelle Un grand voyage vers la nuit.
Merci
pour ajouter
pour
que la deuxième partie est en relief.
Conseils, donc, merci
ces lunettes au milieu du film.
Oui, ces pépites. Oui, oui. Merci d'être là ce soir en direct. Merci donc à Pierre Murat, Éric Nehoff, Xavier Le Herpeur, Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selab, ce soir à la technique au studio 611 de la Maison de Radio France, il y avait. Et je les remercie Henri Bérec et Nicolas Slimani. La réalisation était, comme chaque semaine, de Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et de la Plume, eh bien, il aura lieu jeudi prochain. Je vous attends nombreux jeudi 24 mai à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma et l'autre au théâtre. On parle donc à nouveau de film dans une semaine et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.